Parce que précisément, la gourmandise, je veux dire, voilà, c'est surtout avec les habitudes, etc. Bon, c'est quelque chose qui est très, voilà, c'est, ça veut pas dire qu'il faut pas lutter, mais c'est, ça nous est plus compliqué que de lutter contre, je sais pas quoi, si on est appelé, c'est ça, l'orgueil ou le mensonge, etc., qui sont des défauts qui sont plus, plus spirituels. Donc voilà, donc il y a un sens, il y a un ordre dans ces sens, qui va du plus matériel au moins matériel. Et donc le sens de l'ouïe. C'est intéressant de voir que le sens de l'ouïe, comme le sens de la vue, ce sont les sens les plus spécifiquement humains. Ce sont les sens, ces deux sens qui sont intimement liés au développement de l'intelligence et à la structure des émotions. C'est intéressant de voir ça, au fond, c'est autant, vous vous rappelez, hein, quand on parlait du sens du toucher, le sens du toucher, ça donne le sens de l'être, mais c'est sans interprétation, sans médiation, c'est immédiat. Alors que l'ouïe, et a fortiori la vue, demande une interprétation, demande de mettre, demande l'activité de la raison. Et est lié au sens de l'ouïe, le besoin d'apprendre et de communiquer. C'est donc lié à la parole. Hein, le sens de l'ouïe perçoit, donc on est dans l'intro, vous avez là la feuille, là, j'aurais dû préparer un PowerPoint magnifique, mais je ne sais pas manier ça, donc je suis encore à écrire à peu près. Donc l'ouïe, vous avez là la première partie, on mettra la deuxième partie à côté. Ça, c'est donc intro, on est dans l'intro. Le sens de l'ouïe, donc, répond c'est le sens de la parole, qui est l'outil indispensable pour la communication et l'apprentissage. Donc ça répond, autant le sens du toucher répond au besoin de sécurité, autant le sens de l'ouïe répond au besoin d'apprendre et de communiquer. Le sens de l'ouïe perçoit tous les sons et tous les bruits. Parmi ces sons, certains ont des significations naturelles, sont des indicateurs de perception du réel, comme les bruits de la nature, pluie, vent, tonnerre, etc. D'autres expriment des émotions, cris, pleurs, gémissements. D'autres sont ordonnés par l'art, non en vue d'exprimer ce qui est connu, mais ce qui est ressenti. C'est le cas de la musique. C'est intéressant de voir que la musique exprime, c'est pas une construction de la raison, mais c'est quelque chose qui est à travers l'ouïe, exprime le ressenti. Alors que le langage exprime la raison, exprime l'ordre qui est à l'intérieur de notre raison. Enfin, il y a les mots qui expriment ce que connaît l'intelligence et ce que veut la volonté et ce que ressent aussi la personne. Donc c'est intéressant de voir que l'ouïe, au fond, il y a un spectre très large qui va d'une simple appréhension du réel, hein, jusqu'à la question de l'émotion, donc avec la musique qui est vraiment au service. C'est intéressant de voir ça, c'est que nos jeunes, par exemple, sont très dans la musique. Moi qui suis aumônier d'étudiants, j'ai bien vu, c'est très important. La musique, ça fait partie de leur vie. On voit il y a les jeux vidéo, mais je crois que encore plus la musique. Hein, parce que ça touche directement à l'émotionnel. Et puis, il y a le sens de la parole, hein, le sens de la parole qui exprime ce que l'intelligent connaît et ce que veut la volonté. C'est intéressant qu'une personne, au fond, qui ne sait pas parler, ce n'est pas tant un problème d'articulation que le problème d'ouïe. C'est souvent les personnes sourdes. Une personne est sourde et du coup elle ne pourra pas s'exprimer, elle ne pourra pas articuler, etc. Hein, sauf bon cas particulier, mais en général c'est dans ce sens-là que ça se passe. Au niveau de la parole, donc là on est tac, il y a trois formes de parole. Il faut être un peu attentif, là ça peut être un peu plus abstrait que hier et encore, il faudra voir. La forme, c'est logique parce qu'on va quelque chose vers plus. Détaché de la matière. Les paroles, c'est ce qu'on appelle le logos en grec, qui peut signifier trois choses. C'est la tradition qui, avec saint Thomas d'Aquin, qui a étudié le logos ou verbum. Verbum, c'est aussi le verbe, c'est la parole. Il y a trois formes de paroles. Il y a le verbum prolatum. C'est le mot parler composé de syllabes, c'est-à-dire de sons avec lesquels on exprime ce que nous connaissons. C'est le mot prolatum. Prolatum, c'est-à-dire ce qui est proféré. Hein, c'est le mot qui est proféré. Hein, le mot exprime, alors le concept sert à transmettre notre pensée. Hein, l'ordre mis entre les mots indique l'ordre mis par la raison. Donc c'est le mot, je veux dire, c'est pour faire simple, c'est les questions de mots. Hein. Ces mots peuvent être chargés d'émotions en fonction du ton de la voix. Et c'est tout l'art de la rhétorique, c'est de faire passer par l'émotion hein, et par la manière de s'exprimer ce que l'intelligence connaît. Hein. Par exemple, moi j'essaie de trouver des exemples. Hein. Quand à la libération de Paris, 25 août 44. Donc De Gaulle à l'hôtel des villes, vous vous rappelez ce qu'il a dit, je ne sais pas si ça vous parle un peu, Paris, alors avec moi j'essaie de les métiers, mais bon c'est toujours difficile, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, Paris libéré. Voilà, et tout le monde... Alors il aurait dit Paris libéré, attends, Paris outragé, Paris martyrisé, Paris brisé, Paris libéré. Parce que en termes d'information, c'est quand même très limite. On n'apprend rien de vraiment nouveau. Non, mais c'est très. Au sens de 4 ans de guerre, on voit bien que voilà, on est martyrisé, brisé, outragé, et que c'est la libération des libérés. Bon, mais ça c'est l'art des grands rhéteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément en termes de contenu, c'est pas forcément, il n'y a pas un apport, mais bon. Ils font passer, c'est toute la rhétorique. Hein, la rhétorique, c'est aussi hein, de faire passer. Donc, du coup, ça s'est resté. Vous pourrez le trouver sur. Donc, ça, c'est le verbum prolatum. Donc, qui est le verbe, c'est le mot en général, mais qui est aussi. Qui utilise. Hein, il y a plusieurs. On ne peut pas rentrer dans tous les détails de la rhétorique, parce qu'Aristote a étudié la rhétorique, c'est extraordinaire, les formes de discours. Hein, et donc, qui utilise aussi. Qui exprime l'affectivité avec le ton de la voix. Le deuxième verbum, le deuxième forme de parole, c'est ce qu'on appelle le verbum cordis. Cordis, cors, cordis, qui veut dire le cœur. Le verbe qui vient du cœur. Le verbe qui vient du cœur, le mot est le signe du concept. Alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que le mot, non pas en tant qu'il est proféré, dit, comme vous entendez un série de mots là, depuis que je commence à apprendre la parole, mais c'est le mot en tant qu'il signifie un concept. Quel concept j'associe à quel mot? Le concept concerne l'être des choses. Le mot doit dire la chose. Employer le bon mot. Et ça, je crois que c'est tout l'apprentissage de la parole. Hein, par exemple, un enfant, il dira d'abord, quand il voit un lion à la télé, imaginons, il dit un gros chat. Ah non, un gros chat, c'est pas le bon mot. Il faut faire, donc, c'est progressivement qu'on dira, ben non, ça s'appelle un lion. Donc, ça veut dire que le verbum cordis, c'est le verbe du cœur de l'intelligence, mais qui associe à un concept. À 80%, les conflits sont là, parce qu'on n'associe pas du tout les mots au même concept. On ne dit pas la même chose avec les mêmes mots. Quand j'emploie le mot liberté, et plus les mots sont abstraits, plus évidemment les concepts sont différents, difficiles à saisir. Hein, quand j'emploie le mot Dieu, quand j'emploie le mot liberté, et du coup tout de suite parce que on n'a pas le même concept. Est-ce qu'on dit la même chose? Donc le verbum cordis, c'est le mot, mais en tant qu'il est l'expression d'un concept intérieur, hein, d'un concept du cœur, de l'intelligence. Et le verbum interius. Le mot en tant qu'il fait appel aux émotions. Alors, non pas le ton de la voix, hein, mais aux émotions qui réveillent intérieurement des émotions. Hein, une perception sensorielle, visuelle, olfactive, gustative, tactile, que tel son ou tel mot fait surgir. Non seulement il signifie un concept, mais il signifie une expérience sensorielle et affective. Ce n'est pas directement l'objectivité de la chose, mais des éléments de l'expérience subjective individuelle. Donc c'est intéressant de voir, alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est, le verbum interius, c'est pas tant le mot en tant qu'il est proféré, en tant qu'il est signe du concept, mais en tant qu'il est au fond, l'expression qui va véhiculer beaucoup d'émotions. Hein, mais donc, faire appel à des émotions, à tout un vécu émotionnel. Hein. Par exemple, ben, c'est souvent, c'est la publicité, par exemple, fait appel à ça. À travers des mots, à travers ce trait choisi pour faire appel à des émotions et qu'au fond, ça génère des émotions et que les émotions génèrent l'achat compulsif. Ah, vous voyez, c'est vraiment... donc vous avez les verbum prolatum, le verbum cordis, hein, le verbum interius. Hein, c'est vrai que, par exemple, ben, c'est vrai que les rhéteurs aussi font vibrer aussi des émotions. Avec le ton de la voix, mais par exemple, un Mélenchon, par exemple, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est un rhéteur. Je me rappelle au journal télévisé, on voyait une jeune franco-algérienne qui l'écoutait, qui dit « Je comprends pas tout ce qu'il dit, mais ça me fait vibrer. » C'est-à-dire que ça, c'est ça le rhéteur, c'est qu'il est tellement habité qu'il transmet, mais sa parole. Alors quand on voit les concepts, c'est courage Fillon, mais quand on voit ensuite au fond, tout ce qui fait appel, bien souvent des personnes qui sont favorables à des styles comme ça, bon, je pense Mélenchon, mais bon, ça pourrait être d'autres. Mais il n'y a pas beaucoup de rhéteurs en ce moment. Hein. Après la mort de Georges Marchais, par exemple, on a perdu beaucoup parce que Georges Marchais, c'est des rhéteurs. Parce qu'il fait, il touche des émotions, il met en place des émotions, il réveille par sa parole tout un monde intérieur. Alors voilà. Maintenant, je vous pose une question. Quand on dit le verbe s'est fait chair, de quel verbum il s'agit ? Le cordis. Pourquoi le cordis ? Oui, alors c'est. C'est-à-dire que dans un seul mot, dans un seul verbe, tout ce qui est le concept de Dieu, si on peut dire, tout ce qui est Dieu est exprimé. En un seul verbe, Dieu se dit totalement. Alors que nous avons besoin de 1000 mots pour dire ce que nous pensons, en un seul verbe, le verbum cordis, le Christ est le verbum cordis du Père, le Père se dit totalement dans ce verbe qui exprime son cœur, mais le cœur même de son être. Tout son être, c'est Allah. Alors qu'il nous faut beaucoup de concepts pour dire une chose, alors la table elle est en bois, ça c'est pas une table, c'est déjà un bureau, puis il y a des tiroirs. Si on doit décrire, il nous faut 1000 mots. En Christ, tout est dit de l'être même du Père. Alors c'est intéressant, bon, alors c'est un peu, voilà, ce qu'on, ça c'est un peu, c'est le travail de Saint Thomas d'Aquin, justement pour dire la parole, qu'est-ce qu'on veut dire comme parole? Hein, comme parole, et c'est vrai, par exemple, la difficulté à l'apprentissage de la parole, ça peut être dans les trois niveaux, ça peut être difficulté à prononcer le mot, difficulté à conceptualiser le mot, et difficulté par rapport aux émotions. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la difficulté à... Parce que ça... Donc un enfant, dans l'apprentissage de la parole, c'est intéressant aussi comme clé de thérapie et puis de pour remédier. Grand homme, besoin d'apprendre. Le grand homme, besoin d'apprendre. Donc, Louis répond au besoin d'apprendre. Hein, besoin d'apprendre, il y a deux manières d'apprendre, selon Aristote. La première, c'est par la raison seule, sa seule puissance passe du connu à l'inconnu. C'est-à-dire que, uniquement par l'observation, je peux apprendre. Hein, je peux apprendre par l'observation. Je peux passer, parce que qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? C'est que c'est du passer du connu. Voilà, je connais ce bureau, mais je vais vers l'inconnu, vers ce que je ne connais pas. Et apprendre, c'est précisément saisir quelque chose que je ne connais pas. Je sais pas, avant d'entrer dans sa salle, vous n'aviez peut-être pas une claire vision des trois verbum. Donc, vous êtes passé du connu à ce qui était de l'inconnu. Et une fois que cet inconnu est connu, ben, on passe d'apprentissage en apprentissage. Donc, c'est très intéressant, ça. Donc, c'est uniquement par la force de l'intelligence et par l'observation que l'on apprend. C'est ce que l'on appelle, c'est ce que saint Thomas appelle la via inventiva. C'est-à-dire que l'intelligence seule se suffit. Mais en général, pour apprendre, et c'est la manière la plus habituelle, La raison est aidée par un maître. Il nous faut quelqu'un qui nous guide dans l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle la via disciplina. Il y a deux formes, donc là on en est aux deux manières d'apprendre. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais bon. Donc deux manières d'apprendre. Et c'est beau de voir que c'est via disciplina, c'est-à-dire qu'on apprend grâce à quelqu'un qui enseigne, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, mais aussi on apprend vous-même avec ce que vous avez reçu. Vous allez faire travailler votre gingin, vous allez mettre vos propres mots, vous allez, etc., tourner. Si on vous demande d'exprimer, par exemple, ce que c'est le toucher, ben, vous allez retravailler ça avec votre propre intelligence et peut-être remettre un autre ordre. Et c'est ça, le maître. Le maître n'a pas vocation à ce que les disciples copient, mais a vocation à donner un ordre dans lequel le disciple va pouvoir lui-même travailler. C'est très intéressant, ça. Donc, alors, il y a plusieurs étapes dans le désir d'apprendre, et tout d'abord dans la... plusieurs étapes. Et ça, je vais me servir d'un grand psychologue de l'intelligence, et biologiste, logicien suisse, épistémologue. Épistémologue, c'est tout ce qui touche à la connaissance, à la philosophie de la connaissance. Comment est-ce qu'on apprend ? Jean Piaget, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Jean Piaget, suisse. Il y a les mondes Piaget, mais bon, ça vient de Suisse aussi, mais ce n'est pas pareil. Donc, Jean Piaget, qui, est qui a beaucoup travaillé sur l'apprentissage, dit qu'il y a trois étapes dans l'apprentissage de la parole. Tout d'abord, une pensée, ce qu'il appelle prélogique, c'est-à-dire que l'enfant, au tout départ, quand il met des mots sur l'univers auquel il a un accès étroit, et le fait de mettre des mots sur ce qui l'entoure, c'est quelque part prolonger aussi sa personne, quoi. Donc du coup, c'est des mots qui sont confus, c'est des mots c'est des mots à côté l'un des autres, mais qui n'ont pas une suite logique. Donc c'est d'abord la première étape, c'est l'étape ce qu'on appelle prélogique. Ensuite, il s'agit du mot qui colle étroitement à son univers, façon d'étendre sa possession égocentrique à son environnement. Hein, l'enfant, le nourrisson, le petit bébé, est forcément égocentrique. Il a besoin de recevoir énormément, énormément. Donc, c'est une manière d'étendre son... Ensuite, il y a la pensée logique, qui se met à place vers les... 4 ans, 5 ans, ça dépend un peu des enfants, il n'y a pas de... où il commencera à faire des phrases exprimant un rapport du plus ou du moins entre les choses, d'un avant et d'un après. Il commencera à faire des relations. Hein. Cette table-là est plus grosse que cette table-là. Donc il commencera à faire un lien entre les choses, à former. Hein. Et puis il y a la troisième... étape de la mise en parole, etc., c'est la naissance de l'admiration. La naissance de l'admiration qui est vraiment... c'est l'époque de l'admiration, avec un besoin d'apprendre insatiable. C'est quoi ? Pourquoi ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est ? 1000 questions où l'enfant... Et c'est très important. Où l'enfant, au fond, va essayer, avec son désir d'apprendre, qui est sain, je veux dire, de connaître cette admiration qui est largement entretenu par les mots qu'on lui adresse et les expériences qu'il peut faire. Donc c'est intéressant de voir que cette progressivité dans l'usage du langage et dans la formation du langage, et l'admiration, c'est vraiment très, très, très important, l'admiration. C'est un enfant qui commence à s'émerveiller et à poser des questions, alors même si c'est très fatigant, ça je vous l'accorde. Oui, c'est ça. Chut, tais-toi, on t'expliquera plus tard, quand tu seras grand, etc. Mais, en tout cas, ce qui est très important, c'est de jamais de se moquer d'un enfant qui admire, qui est émerveillé. Se moquer par l'ironie. Vous voyez, il y a parfois, je sens, comme ça, j'ai des hommes de famille ou blasés. Oh, ben, ça, c'est évident. Voilà. Vous voyez, quelque part, on tue son admiration. On la blesse. On blesse son émerveillement. Hein, face à ce qui nous... Oh, ben ça, c'est déjà fait. Oh, ben ça, c'est... Voilà. Et ça, c'est pas bon. Parce que, du coup, ça n'aide pas, parce que c'est au principe de la philosophie et l'émerveillement. Hein, au principe, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est l'admiration. qui nous pousse à aller ensuite plus loin et à travailler et à mettre notre intelligence au service justement de la connaissance. Donc pour cette admiration donc qui est largement entretenue par les mots qu'on lui adresse et les expériences qu'il fait. Et c'est vrai qu'on voit très bien, c'est selon le milieu, le tissu social dans lequel vous êtes né, forcément on ne vous parlera pas de la même manière. On vous sollicitera pas de la même manière. Parfois, il y a des familles où les enfants sont hyper sollicités. Alors, t'as le piano, t'as la danse, t'as le poney, t'as le ceci, t'as le la piscine, t'as le sport. L'enfant, des sollicitations. Alors bon, en même temps, c'est super. Puis il y a des enfants aussi qui sont pas du tout sollicités. Et ils sont pas du tout sollicités parce que voilà le milieu social. Et c'est pas qu'une question d'argent. C'est que le milieu social dans lequel ils sont ne le pousse pas à faire de nouvelles expériences qui pousseraient à l'admiration et cette admiration qui pousserait ensuite à la connaissance, à l'apprentissage. Donc mais c'est quand même très important de faire des, justement pour que l'enfant mette des, que le mot puisse signifier le concept, du coup qu'il puisse avec son surtout l'ouïe, mais aussi la vue et puis tous les sens, parce que là on dissèque un peu, mais évidemment c'est tous les sens, mais qu'ils puissent découvrir d'autres choses. Mais aussi, alors, pour être satisfait, il a besoin d'un maître. C'est-à-dire que Louis, ça a à voir aussi avec le sens de l'autorité. J'écoute, hein, écouter, hein, alors que le toucher, c'est plutôt le sens de l'altérité, ce qu'on a vu un peu hier. Louis, c'est le sens de l'autorité. Hein, et vous savez que le verbe « obéir », obéir, ça vient de ob audire, écouter à partir de quelqu'un d'autre qui parle extérieur à moi. L'autorité d'un maître, l'autorité qui vient de la science de celui qui sait. Cette autorité, c'est qui sait, c'est d'abord le père qui, en s'intéressant aux admirations de son enfant, oriente ainsi son intelligence vers l'acquisition des vérités fondamentales de la vie. Et peu à peu, le maître d'école remplace le père. Et s'il sait s'appuyer sur l'admiration, donnera à l'enfant ses premières joies intellectuelles qui ne seront jamais oubliées. Parce que ça, je trouve très intéressant de voir que c'est important les maîtres que l'on a pu avoir. Hein, les maîtres qu'on a pu avoir, il y a des profs qui certainement vous ont marqué, ou des personnes qui vous ont marqué. Moi, c'est vrai que je me suis formé, et je peux le dire maintenant, mais tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai appris. C'est pas simplement le fruit de la via inventiva, hein, c'est le fruit de la via disciplina. Et je me suis mis vraiment à l'école, hein, de quelqu'un qui compte aussi beaucoup pour moi, qui est Aline Lisotte, une femme qui a travaillé, qui est prof qui a été prof à l'IPC où j'ai appris la philo. Vous savez que quand on est prêtre, on fait d'abord philo, ensuite théologie. Et c'est vrai qu'elle a ouvert mon intelligence. J'avais à l'âge 28 ans, 29 ans, comme quoi il n'est jamais trop tard, hein, et elle a ouvert mon intelligence à la philosophie. Moi, ça m'a juste ébloui, complètement ébloui. Donc du coup, ces joies intellectuelles, alors c'est vrai que la joie intellectuelle demande plus de travail, hein, vous tondez votre pelouse, vous finissez, sympa. Non mais c'est vrai. Non mais les frères, par exemple, nous dans notre communauté, on est plus du côté de la pelouse, si vous voulez. Donc, mais les frères, pour faire travailler jusqu'à, parce qu'il faut beaucoup travailler pour arriver à une joie intellectuelle, à une joie de l'esprit. Alors que le manuel, bah, très rapidement, il a lui-même une satisfaction parce que. Voilà, on voit la pelouse, on voit la pâtisserie, on voit mais la joie intellectuelle, ça demande une ascèse. Mais ça demande d'être disciple. Donc ça demande une obéissance. Et c'est que souvent, après pas mal de travail, que, tac, on a fait le lien, on a percuté. On fait le... Donc je crois que c'est... En tout cas, je vois beaucoup à cette femme et je m'inspire largement de ses enseignements, parce que apprendre, c'est monter aussi sur les épaules des autres. C'est pas tabula rasa de Descartes. C'est pas on fait table rase, rien n'a existé avant moi, et puis, il y a l'être, il y a le bien, il y a le vrai. Ah ben, non, d'autres ont réfléchi avant moi. Et je crois que le fait d'apprendre, c'est de rentrer dans une attitude de disciple, hein, et, mais de disciple avec un maître. Alors, c'est intéressant, la question du maître. Hein, la question du maître, en fait, c'est le maître qui donne les joies, qui donne une joie intellectuelle, fournit à l'intelligence une orientation pour la vie. Le vrai maître communique à l'intelligence du disciple l'ordre qu'il a mis dans sa propre pensée. Au fond, être disciple, c'est saisir l'ordre que met l'autre dans sa pensée. C'est-à-dire que c'est pourquoi vous faites ça et pourquoi, dans, un peu comme vous m'avez posé la question, mais pourquoi on commence par le toucher, on va vers l'ouïe, on va vers la vue. C'est qu'il y a un ordre. Mais le maître, donc, c'est celui qui dit et qui transmet l'ordre qu'il a dans sa propre pensée, l'ordre qu'il met entre les mots, l'ordre qu'il met entre les concepts. Et donc, du coup, et cet ordre-là, celui qui s'en empare ensuite, évidemment, va retravailler. Mais il va retravailler avec un ordre qui va l'emmener plus loin. La manière dont je vous présente les sens n'a rien à voir avec la manière dont Aline Lisotte, c'est une consacrée, une oblate de bénédictine, laïque, hein, mais a présenté les choses. J'ai repris, mais il y a quelque chose de l'ordre dont je me suis emparé et qui me permet maintenant d'exprimer et de dire les choses à ma manière. Hein. C'est là où on voit que c'est très important les maîtres, hein, les maîtres que l'on a et que les enfants ont. Alors bien sûr, il y a un film qui est magnifique là-dessus. Le cercle des poètes disparus. Ah, ça. On fera peut-être une session avec des films, on verra. Parce que c'est non, mais c'est extraordinaire, les films. Parce que le cercle des poètes disparus. Alors, j'ai revisionné la fameuse. Alors, déjà, pour vous dire, un maître, vous rappelez un peu le cercle des poètes disparus, sorti en 89. Vous étiez plus jeune, moi aussi. Vos folles années. Et donc, on voit ce John Keating, monsieur Keating, qui est prof de littérature, prof d'anglais, mais prof de littérature, quoi, parce que ça se passe aux États-Unis, et qui arrive dans une université américaine extrêmement stricte, hein, et qui a, en face de lui, a des élèves, etc., dont un élève, Mr. Anderson, hein, qui est grand timide, etc., et il va complètement l'ouvrir, l'épanouir, mais... ça va mal se terminer. Mais d'où c'est très intéressant. Et par exemple, vous voyez, par exemple, il dira, il y a dans les dialogues, là, peu importe ce que pourra vous dire les mots, les idées peuvent changer le monde. Et le langage s'est développé pour quel motif, monsieur Anderson? Alors, il pose la question. Alors, vous êtes un homme ou une amibe? Et monsieur Perry, qu'est-ce que vous dites? Mais pour communiquer. Non. Pour courtiser les femmes. Vous voyez, donc un type qui commence comme ça, son cours de français, évidemment, qu'il a là, ce qu'on appelle la captatio benevolentiae, c'est-à-dire qu'il capte la bienveillance des élèves, et c'est très important de capter, parce que si le professeur ne capte pas la bienveillance de l'élève, hein, parce qu'avant, faut regarder tout le film, hein, mais avant, il a dit d'arracher les pages du manuel. C'est quoi la poésie? Alors, il y avait un agrégé qui avait fait une description de la poésie. Il dit que tout le monde prenne la page et arrache la page du manuel. Ce n'est pas ça la poésie. Alors voilà, pour vous donner un peu le genre du type. Hein, et puis à la fin, alors bien sûr, il est viré, parce que l'université, c'est pas du tout dans cette manière-là qu'elle veut enseigner. Hein, et puis ils avaient appris ensemble un poème de Walt Whitman, « Ô capitaine, mon capitaine ». Vous vous rappelez cette période? « Ô capitaine, mon capitaine, lève-toi, entends les cloches, lève-toi, c'est pour toi le drapeau hissé, pour toi le clairon vibrant, pour toi bouquet et couronne enrubannée, pour toi les rives noires de monde, toi qu'appelle leur masse mouvante, aux faces ardentes tournées vers toi, tiens, capitaine, père chéri, passe mon bras sous ta tête, c'est quelques rêves que sur le pont, tu es étendu, mort et glacé. » Alors, voilà, ça continue. Alors, capitaine, mon capitaine. Et puis, quand le Keating est viré, il vient chercher ses affaires. Il tape à la porte. Vous vous rappelez tous le... Et alors, il commence à dire, le prof qui a dit, oui, monsieur Keating, venez chercher vos affaires, est-ce que je reviens? Non. Donc, il vient, et puis, à la fin, il y en a un qui, il n'entraîne pas à chercher ses affaires, il fout derrière, il repart en silence, le nouveau prof qui, lui, insiste pour apprendre la page que l'autre a arrachée, évidemment, le nouveau prof est là, et puis à un moment donné, Anderson qui était son grand disciple, se met debout sur le pupitre, au capitaine, mon capitaine, et puis tous, c'était extraordinaire. Mais avouez, ça c'est extraordinaire, mais ça n'a rien à voir avec le maître selon Aristote. Le maître selon Aristote, c'est un gourou, c'est pas un maître. Mais c'est un type, mais il faut faire attention. Hein, parce que tous, on les voit à la fin, puis la musique, le film, t'as la musique qui commence, etc. Et puis tous, hein, et asseyez-vous, partez, monsieur Keating, etc. Et tous, oh capitaine, mon capitaine, il se monte. Mais bon. Et puis je crois qu'il finit par se suicider, hein, le Anderson. Non, non.
C'est là où
le vrai
maître, celui qui enseigne au moment où la personne peut accueillir.
Oui.
Parce que le professeur a commis cette erreur de ne pas dire les choses au bon moment. Et il n'a pas accueilli l'enfant au moment où il était capable de recevoir.
Ah, c'est un enfant, l'enfant c'est une corde. C'est-à-dire qu'on trouve la bonne corde et on le fait vibrer. Et des ados, bon, vous avez un autre film qui s'appelle La Vague. Vous connaissez ? Il faut sortir un peu de votre monastère le dimanche. Parce que, qu'est-ce que c'est que ça là ? Je vais finir par culpabiliser, il n'y a que moi qui vois des films. Je me dis, à quoi passe l'argent, les dons multiples et variés? Et donc, La Vague, alors ça se passe en Allemagne, et le lieu n'est pas anodin, où au fond, un professeur, justement, a commencé à donner des signes de reconnaissance. Il fallait faire, on se saluait pas comme ça, on se saluait comme ça. Et commence à se réaliser autour de professeurs toute une bande de personnes, et il y avait ceux qui sont dedans et ceux qui ne sont pas dedans. Mais c'est allé à tel point que c'était à la fin de l'embrigadement. C'est-à-dire que progressivement, les enfants étaient séparés de leur famille et n'avaient Dieu que pour ce professeur. Alors, c'est intéressant, surtout en Allemagne, où bon, il y a un passif, comme qui dirait, un peu lourd. Donc, du coup, mais vous voyez, c'est important, les maîtres. Quels sont les maîtres que l'on choisit? Et un maître, c'est un maître qui vous rend libre. C'est un maître qui vous rend libre. Un maître qui fait que vous pouvez vous passer de lui. Mais parce que vous avez compris l'ordre qu'il a mis dans son intelligence, là il ne s'agit pas d'ordre, là il va. Le Keating, par exemple, mais il va à l'affectif au maximum, c'est un grand affectif, etc. Il les emmène pendant la classe, il les fait sortir, et puis c'est carpe diem, c'est sa devise, hein. Donc il les fait sortir, etc. Déjà rien que de sortir pendant la classe, alors qu'on doit être tous dans les bureaux, et puis il leur fait émerveillez-vous, etc. Et puis il travaille non pas sur la raison et l'intelligence, sur l'affect. Et là, je crois qu'il faut être vraiment attentif. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il ne faut pas tomber dans le gourou, quoi. Je veux dire, c'est un maître, ce n'est pas un gourou. Un maître, c'est quelqu'un qui rend l'autre libre. Hein, et quelqu'un qui transmet à l'autre ce qu'il a compris, mais en même temps qui l'emmène plus loin et qui l'emmène à sa suite et qui lui-même se désapproprie de lui-même, quelque part. N'a de désir que de disparaître, hein, pour que le disciple, hein, bah évidemment, le maître c'est le Christ, hein, quand on dit ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc du coup, voilà, le besoin d'apprendre à travers un maître, le fait d'écouter, mais en même temps d'être assez, quels sont nos vrais maîtres, qu'est-ce qu'on choisit comme maître. Le deuxième point, c'est le besoin de communiquer. Toute personne humaine utilise de façon prioritaire le langage pour communiquer sa pensée. Elle est plus dépourvue lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions, pleurs, cris, exclamations, bruit du larynx. Hein? La musique est la forme la plus évoluée par laquelle l'être humain communique ses émotions. Comme ça touche l'ouïe, cela atteint directement le monde des émotions, Beaucoup plus, par exemple, que la peinture. Maintenant, le besoin de communiquer, ça veut dire trois choses. Ça veut dire quoi? Quelle est la composante de ce besoin de communiquer? La composante, c'est d'abord une écoute partagée. Pour communiquer, chaque personne a besoin d'être écoutée et non seulement entendue. Le besoin d'échange dans la parole est nommé dialogue, mais en fait, le dialogue, c'est la recherche dialectique que l'on fait ensemble sur un sujet où, qui ne disons, sur un sujet qu'on ne perçoit pas directement. Je m'explique. En fait, un dialogue, c'est différent d'une écoute. Dans un dialogue, c'est qu'on essaye de chercher à savoir ce qu'est quelque chose dont on n'a pas une perception immédiate. Donc on se met autour de la table et on essaye face à un objet, voilà, on se dit quelque chose de nouveau, quelque chose. Voilà, on dialogue, chacun apporte son point de vue pour découvrir et mettre le bon concept sur le bon mot. Parce que ça ne s'impose pas, ça ne vient pas automatiquement. Ce n'est pas un rouleau de scotch, il n'y a pas besoin de 36 dialogues. Mais il y a des réalités, évidemment. Plus c'est abstrait, plus c'est compliqué, plus c'est vers l'inconnu, plus il faut du dialogue. Mais attention, la communication n'est pas le dialogue. Elle commence par l'écoute. L'écoute qui fait que le besoin donc d'échange, ce besoin d'échange, qui va faire que la personne va pouvoir se livrer. Et c'est intéressant de voir ça, de voir qu'au fond, quel est le premier commandement ? Écoute Israël. Écoute Israël, en Exode 23, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Et puis la règle de Saint Benoît, commence par « Écoute, mon fils, l'enseignement du maître, ouvre l'oreille de ton cœur, accepte volontiers les conseils d'un père qui t'aime et fais vraiment tout ce qu'il te dit. En travaillant ainsi à obéir, tu reviendras vers Dieu. » Donc c'est intéressant de voir que l'écoute, c'est le préalable à toute communication. L'écoute, que ce soit la communication avec Dieu, que ce soit la communication entre nous. Et cette écoute, elle suppose plusieurs choses. Premièrement, de recevoir sans filtre, ce qui est quand même difficile. C'est-à-dire sans crainte ou doute de la parole d'un autre. Quand il parle, livre toujours quelque chose de lui-même. Quand on parle, forcément, on se dit nous-mêmes. Que ce soit profond ou pas, mais... Alors c'est sûr, plus on exprime une réalité intérieure, plus on se dit nous-mêmes. Donc d'abord, c'est l'écoute suppose de recevoir. L'écoute suppose de donner sa parole. La parole qui est l'un des biens les plus intimes de la personne ne peut être donnée qu'à quelqu'un qui la reçoit avec bienveillance. C'est vrai que c'est pas facile de parler, en tout cas c'est difficile de parler quand on sent que ce que l'on a dit n'est pas vraiment accueilli. Ce serait pour moi très difficile de vous enseigner si je ne sentais pas qu'il y avait une bienveillance, si je ne sentais pas qu'il y avait une curiosité, si je ne sentais pas qu'il y avait un accueil, etc. Donc on voit bien, il y a une interaction. Et alors dans le dialogue de couple, là on est deux. Donc c'est important de dire que la parole de l'autre engage et dit ce que l'autre porte, donc à la recevoir, mais aussi cette parole de l'autre, on doit la donner. Donc c'est important de cette bienveillance, c'est-à-dire qu'on considère la parole de l'autre comme un bien. Et cela sollicite la docilité. Louis, si c'est le sens du disciple, c'est le sens de la docilité. C'est le sens de l'autorité, c'est pareil. C'est-à-dire la disposition de l'intelligence à recevoir l'autre, que ce soit dans la force ou dans la faiblesse. La parole sollicite l'attention, c'est-à-dire la disposition de la volonté, non seulement dans sa pensée, mais aussi dans ses difficultés, ses hésitations, ses doutes. Donc c'est intéressant de voir que cette écoute partagée, qui est une des composantes du besoin de communiquer, elle demande au préalable, c'est pas facile du tout d'écouter. Parce que ça demande au plan intérieur de, quelque part, faire de l'espace à l'intérieur de soi pour recevoir la parole de l'autre et la recevoir dans une bienveillance. Et ce qui arrive bien souvent dans la vie de couple, en tout cas, et c'est la différence aussi entre, une des différences entre hommes et femmes, la femme a beaucoup besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, parce que la femme a une capacité de mettre la main et de mettre des mots sur des émotions beaucoup plus que l'homme. Et l'homme ne comprend pas pourquoi la femme a besoin autant de s'exprimer. C'est-à-dire pourquoi, mais ça tu me l'as dit 10 fois, bon voilà, passons à autre chose. Non. Et c'est là où c'est tout un apprentissage d'humilité. Et si la femme, elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle porte en elle-même, à exprimer et qu'elle sent en face d'elle, ben, c'est pas une docilité, mais un désintérêt. Non, ça ne concerne aucun d'entre vous dans la salle, bien sûr. Donc, mais donc, du coup, c'est compliqué pour elle. C'est compliqué pour elle, mais ça peut être aussi des hommes qui sont plus, mais c'est plus généralement féminin. Hein, d'avoir ce besoin d'exprimer, voilà, j'ai ressenti ça, j'ai vécu ça, avec les enfants, il s'est passé comme ça. Alors, bon, il faut aussi un temps de parole, aussi, parce que ça aide aussi à ce que chacun puisse s'exprimer. Mais voilà, c'est important de donner, d'accueillir la parole de l'autre, c'est accueillir son intimité, hein, et donc avoir des conditions pour cette écoute partagée. Mais c'est aussi un signe de communion. Deuxième point, vous l'avez là, tac, écoute partagée, signe de communion. Hein, si vous êtes perdu un peu dans le plan, hein, la parole échangée demeure sans être le seul, mais c'est l'un des grands signes de sociabilité de l'homme. Hein, Aristote le confirme en disant, et là je vais vous lire un passage d'Aristote dans le livre de la Politique, « Si l'homme est infiniment plus sociable que les abeilles, et tous les autres animaux qui vivent en troupe, c'est évidemment, comme je l'ai dit souvent, que la nature ne fait rien en vain. Or, elle accorde la parole à l'homme exclusivement. La voix peut bien exprimer la joie, la douleur. Aussi ne manque-t-elle pas aux autres animaux. » La voix, le son, le phoné, en grec c'est phoné, c'est la voix. Hein. Parce que leur organisation va jusqu'à ressentir ces deux affections et à se les communiquer. On a vu, hein, toute la partie affective, tout ce qui est en dessous d'intelligence et volonté, on l'a en commun avec les animaux, en particulier avec les mammifères. Mais la parole, hein, verbum, hein, c'est là où on parle du verbum, du logos en grec, il y a phoné et logos. Hein, la parole est faite pour exprimer le bien et le mal, et par suite aussi le juste et l'injuste. Et l'homme a ceci de spécial parmi tous les animaux, que seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et tous les sentiments de même ordre, qui en s'associant constituent précisément la famille et l'État. Donc c'est intéressant de voir que c'est le signe de la communion, la parole. Et évidemment, c'est le début de la communion. Il n'y a pas de communion sans parole. Et là, on refait le lien, mais... toute alliance, toute communion commence par une parole. Hein. Que ce soit et Dieu dit, que ce soit la parole du Christ, que ce soit dans la liturgie, la liturgie de la parole précède la liturgie du corps, la liturgie eucharistique. Hein. Et si on est assis pendant qu'on écoute, justement parce qu'on veut être, c'est le signe à travers cette position du corps que l'on est un disciple. Donc c'est intéressant de voir que la parole, hein, elle est le préalable à toute communion. Et le mutisme est le préalable à toute division. Pour faire tomber la violence, c'est intéressant parce que je ne me rappelle plus où j'avais vu ça, mais il y a des personnes qui sont spécialisées dans les conflits, et dans les conflits très violents, etc. Et disent, il faut, tant qu'on parle... ça va. Je ne me rappelle plus le nom de la personne. Tant qu'on parle, voilà, tant qu'il y a une parole, ça veut dire aussi que quelque part, on contient la violence. Mais c'est quand il n'y a plus de parole que la violence arrive. Et c'est très intéressant de voir dans l'évangile de la femme adultère, où Jésus s'interpose avec la femme. La femme, c'est pas parce que c'est une femme, c'est l'humanité qui est adultère. De même hier, quand on a lu le très beau passage de la femme chez Simon le pharisien, c'est l'humanité qui se met au pied de Jésus. Et donc du coup, le fait qu'il parle fait que petit à petit, en commençant par les plus anciens, ses auditeurs quittent la scène. Et il est justement par sa parole et par le fait de rentrer en dialogue et de faire que l'autre rentre en lui-même. Parce qu'il écrit, c'est le seul moment où Jésus écrit, comme Socrate qui n'a rien écrit. Jésus n'a rien écrit, si ce n'est des. L'Écriture dit, il trace des traits sur le sable. Contrairement aux scribes qui passaient leur temps à écrire, Jésus n'a jamais rien écrit. Alors ces traits, alors voilà, vous avez toutes les interprétations possibles et imaginables. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que, au fond, la parole est le signe de la communion. Et c'est pour ça aussi que le fait que la parole précède le corps, j'en parle souvent aux fiancés, mais sans grande illusion, le fait que la parole précède le corps, c'est que le corps, c'est la parole la plus forte. Mais qu'il y a d'autres formes d'intimité en tant que l'intimité de la parole. Parce que premièrement, la parole, et le corps viendra exprimer ce que la parole a dit. La parole dans le sacrement et la parole qui se fait chair dans l'union intime des époux. Et donc, je trouve ça très inspirant, très lumineux, très, très beau, cet ordre de l'amour qui commence toujours par la parole. La parole manifeste l'appartenance à un groupe, on est toujours dans la communion, à une culture transmise par l'éducation. Appartenir à une nation, c'est en parler la langue, vaste sujet. Non seulement au plan grammatical, mais aussi des idiomes. L'idiome, c'est-à-dire le parler propre à un pays, à une communauté, à une région. Des idiomes. C'est vraiment on est du coin parce qu'on a la bonne expression au bon moment. On comprend la personne. Je vais vous donner un exemple. Je vais à la boulangerie, souvent dans le midi, là, donc à côté de Toulon, on a une maison de famille. Je vais à la boulangerie et. La boulangère dit, donc c'était vraiment un local de l'étape qui était là en face de moi, j'apprends toujours des expressions. Quand je vais dans le midi, il y a des idiomes extraordinaires. Et elle dit, voilà, c'est 2,37 €. Et lui sort, monsieur sort de là, j'ai juste la pointure. Mais il fallait pas regarder les chaussures, je veux dire, c'est juste la pointure, c'est juste. Donc, celui qui dit juste la pointure, qui regarde les chaussures, il a rien compris. Mais ça, faut vraiment. Vous voyez, ça demande énormément d'où quand on est étranger. Pour dire j'ai juste la pointure, et avec l'accent en plus, il y a des trucs extraordinaires. Dans le midi, c'est plein d'idiomes. Alors, voilà. Du coup, ça veut dire aussi comprendre les idiomes, aussi dans une communauté scientifique, dans une entreprise, etc. Il y a des idiomes. Troisième point. Le besoin de communiquer, écoute partagée, signe de communion, construction de la personnalité, je terminerai avec ça. La communication d'une parole positive est indispensable chez l'enfant et l'adolescent à la construction de la valeur positive de l'ego. C'est la parole du père, et ça je crois que c'est très important de vous dire, vous comme père, votre parole est irremplaçable. La parole du père qui a une place privilégiée, et qui donne à l'enfant le sens du réel, l'accueil gratifiant de sa personne. La parole du Père, c'est cette parole du Père qui construit la Père, qui met l'enfant debout aussi, qui le met au monde. Le Père a cette vocation de sortir en dehors, comme on l'a vu, et de le mettre au monde. Et j'aimerais lire, ça va, on a le temps, j'aimerais lire un texte de Erickson, Milton Erickson. Là, c'est intéressant, un psychologue, page 309, Milton Erickson, un grand psychologue et psychiatre américain, en 1901-1980, qui avait fait une étude chez auprès des Indiens Cheyennes. Alors, je vous lis un peu les fruits de son explication. Le docteur Ruth Underhill me parla d'une longue observation du comportement d'un groupe d'anciens chez les Indiens Cheyennes en Arizona. Le maître de maison demanda à sa petite fille de 3 ans de fermer une porte. La porte était lourde et difficile à fermer. L'enfant essaya, mais elle ne put la mouvoir. Plusieurs fois, le grand-père répéta « Oui, ferme la porte ». Personne ne se précipita au secours de l'enfant. Personne ne prit la responsabilité à sa place. D'un autre côté, il n'y eut aucune impatience. Après tout, l'enfant était petite. Tous restèrent gravement assis, attendant que l'enfant réussisse et que son grand-père lui remerciait. Tous présumaient que cette tâche ne lui aurait pas été demandée si elle n'avait pas pu l'accomplir, et comme elle lui avait été demandée, elle en avait elle seule la responsabilité, comme si elle était une femme adulte. Le point essentiel de cette éducation est que dès l'enfance, l'enfant est formé à participer à la responsabilité sociale et qu'en même temps, les tâches qui lui sont demandées sont adaptées à ses capacités. Le contraste avec nos sociétés est grand. L'enfant dans nos sociétés industrielles n'a aucune participation au travail, exception faite quand il est en concurrence avec l'adulte, le travail de l'enfant. Son travail n'est pas mesuré à sa force et son habileté, mais aux exigences exorbitantes des besoins de l'industrie. Même quand nous louons ce qu'un enfant accomplit au foyer, nous sommes outragés si une telle louange est prise comme étant du même ordre que la louange adressée aux adultes. L'enfant est loué parce que les parents sont bien disposés, peu importe que la tâche soit bien faite selon le critère de l'adulte. Ainsi, l'enfant n'acquiert aucun critère sensible par lequel il peut mesurer sa performance. La gravité d'une famille d'Indiens Cheyennes, célébrant cérémonieusement la première fois où le petit garçon capture un oiseau des neiges, est très éloignée de notre comportement. À sa naissance, on donne au petit garçon un arc et des flèches, le tout taillé à sa stature, et fait spécialement pour lui par les hommes de la famille. Il est graduellement entraîné à capturer animaux et oiseaux, en commençant par ceux qui sont les plus aisés à prendre. Au fur et à mesure où il capture le premier animal d'une espèce différente, sa famille lui fait une fête, acceptant ainsi sa contribution aussi sérieusement que le bœuf que son père rapporte. Quand finalement il tue un bœuf, c'est seulement la dernière étape de son enfance, non un nouveau rôle d'adulte différent de ce qu'il aura été durant toute son enfance. Donc c'est intéressant de voir que ces rituels, moi je suis ces rituels, c'est-à-dire que voilà, tu as ces étapes, cette parole qui a été donnée à cette petite fille jusqu'au moment où elle arrivera à repousser où chaque année on lui redira sa parole, cette parole qui a été donnée au garçon, c'est-à-dire tu vas chasser et progressivement cette parole, eh bien elle construit la personnalité, hein, et ça je trouve ça assez intéressant d'avoir des exemples dans d'autres cultures. Hein. Surtout que dans nos cultures, je trouve que ça manque aussi beaucoup des paroles qui manifestent des étapes. Moi, je vous encourage beaucoup aux célébrations dans les familles. Hein, où on célèbre. Alors, on célèbre l'anniversaire, mais je crois qu'aussi on peut célébrer. Voilà, on a perdu ce sens de la fête, au fond. Hein. La fête, c'est à gogo, etc. S'éclater. C'est pas ça, s'éclater. Dieu agit par attraction alors que le monde agit par distraction. Et donc nous au contraire, nous sommes invités à célébrer chaque étape de l'enfant. Ah bah oui, tiens, super, par quoi tel. Alors sans tomber, il faut pas non plus célébrer toutes les deux minutes, sinon la célébration tue la célébration, mais ces paroles qui sont données et qui construisent l'enfant, qui le mettent debout, je trouve ça absolument irremplaçable et quelque chose de vraiment extraordinaire. Hein. La parole donc construit la personnalité dans la détermination sociale de la sexualité, c'est-à-dire qu'il se place dans un groupe comme homme ou comme femme. C'est le sens de l'autorité, tout ça la parole du père, avec l'initiation par la parole aux valeurs fondamentales, la rectification dans l'agir, encouragement à se réaliser comme personne. Et ça, je pense que les pères ont un rôle tout à fait particulier dans cette parole d'encouragement, dans cette parole de « voilà, c'est bon, je... » va plus loin, mon fils, je suis avec toi, tu te casses la gueule, c'est pas bon, on recommencera. Pour ça, les Américains, moi, je trouve, ils sont hyper fiers d'eux, je dis, mais c'est génial, alors que le type, c'est magnifique, c'est great. Alors, vous seriez aux États-Unis, par exemple, vous m'encourageriez. Jean Vanier, il donne l'exemple d'une conférence qu'il a donnée auprès des Noirs américains. Oui, c'est magnifique. À la fin, il pouvait plus en passer une, tellement. Car vous, vous m'écoutez sagement, silencieusement, etc. C'est une culture. Hein, vous, alors que les Noirs américains, ils s'encouragent, et c'est magnifique que tu dis. Il y a ce sens de l'encouragement, qui est vraiment très beau, je trouve, et qui nous manque, même de l'encouragement dans l'échec. Je veux dire, quelque part, tu n'y es pas arrivé, mais ce sera next time, voilà. La prochaine fois, tu vas y arriver. On y croit. Mais ce n'est pas grave. C'est ce côté-là qui fait qu'on entreprend, ce qui fait que aussi que... Et je voudrais terminer cette fois-ci, mais c'est bon, je suis à l'heure. On a bien commencé à l'heure, moi. Par un texte de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué, vous connaissez peut-être ce livre-là, Guy Corneau qui est un Canadien, un Québécois plus exactement, et qui dit la chose suivante. La parole qui partage, la parole qui rassure, la parole qui révèle, celle qui confirme, si brève soit-elle, est un élément fondamental de tels événements initiatiques. Qu'on se rappelle l'éloquent Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, que le Christ prononce à l'intention de son premier apôtre. Le bris du silence, le bris de la gêne de la part du père est un geste d'une portée incalculable hein, pour son fils. Qu'on dit le bris, ben c'est un Québécois, je pense, la rupture, hein, la rupture du silence, la rupture de la gêne de la part du père est un geste d'une portée incalculable pour le fils. Peu importe l'humilité de la parole ou l'âge des protagonistes, pourvu que cette parole soit vraie et non rigidifiée par un quelconque principe. Malheureusement, dans de nombreuses histoires d'hommes, cette ouverture du cœur se produit bien souvent in extremis au chevet d'un père agonisant. La parole du père initiateur ne saurait être de se cantonner dans un modèle de perfection ou dans une attitude artificielle de père fort. Bien au contraire, seul le partage par le père de sa simple humanité peut introduire le fils à la vie et le décharger de l'obligation d'être un dieu ou un malfaiteur. Alors moi, je trouve ça vraiment très beau de voir au fond cette parole du père qui construit l'enfant, qui en même temps le met debout, et n'attendons pas hein, d'être au chevet pour donner une parole qui vient que du chevet d'un père pour dire je t'aime, tout simplement. Parce que c'est vrai que dans l'homme, il y a une forme de pudeur, il y a une forme de... Voilà, on a du mal à exprimer, on a du mal à... Hein, les Juifs disent sur 10 paroles, Dieu a donné 10 paroles à l'humanité, 9 à la femme, 1 à l'homme. Hein, donc, mais c'est très important que. Alors, soit un peu. Bah, j'ai coupé l'enregistrement là, parce que là, ça va falloir. Mais c'est la trahison. Mais que cette parole-là, elle soit dite. Mais que cette parole-là soit dite. Et que l'homme aussi entende une parole, c'est très intéressant dans le récit de la création. Quelle est la première parole que l'homme a entendue? Non, ah non. La parole de Dieu. Et quelle est la première parole que Ève a entendue? La parole de l'homme. Ça veut dire que l'homme a besoin d'entendre aussi cette parole de Dieu, hein, comme aussi l'épouse a besoin d'entendre la parole de son époux. Alors ça demande un effort. Je crois que c'est pas là depuis le péché originel, hein, comme on dit, une pomme et beaucoup de pépins. C'est-à-dire que ça demande un effort qui fait que voilà, c'est le dialogue et voilà, sans plus attendre, je crois que c'est quelque chose qui vous introduit aussi au dialogue en couple, qui n'est pas forcément évident. C'est bon, vous avez des étudiants, qui n'est pas forcément évident, mais qui permet justement d'avoir donc besoin de communiquer, écoute partagée, sens de communion et construction de la personnalité. Mes amis, j'espère que ça n'a pas été trop pas de course un peu, hein, peut-être non un peu, mais bon. Alors, on n'a pas fini avec Louis. Ah ben non. Qu'est-ce qui manque avec Louis? L'excès le manque. L'excès le manque pour. Non, pour un, et l'excès le manque pour deux. Soit vous voulez faire ça, soit on fait autre chose, mais ça vous intéresse, parce que je me dis, l'excès le manque dans Louis, c'est pas simplement avec les écouteurs à fond, hein, vous voyez, c'est...